une semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, samedi 6 mai, merci d'être au rendez-vous. Nous allons faire un point sur l'actualité de ces derniers jours, dans le monde, en Afrique évidemment. Je vous rappelle que vous pouvez aussi écouter cette émission sur le site de la radio RFI.fr. À la veille du second tour de l'élection présidentielle, nous n'allons pas revenir sur la campagne, mais j'ai voulu que nous parlions du palais où, comme ses prédécesseurs, va s'installer le ou la nouvelle élue, le palais de l'Élysée bien sûr. Notre invité vient d'écrire une histoire de cet endroit qui symbolise la présidence de la République. Bonjour Bernard Brigolex.
Bonjour Pierre-Édouard.
Je suis très heureux de vous accueillir à ce micro, ça me rappelle des souvenirs pas si lointains que cela.
Et moi donc.
Alors vous êtes journaliste, écrivain, ancien directeur de la rédaction et des antennes de RFI, très bon connaisseur des arcanes de la politique, vous avez beaucoup fréquenté les couloirs du pouvoir ces dernières décennies.
Oui, oui, à différents titres, je dirais même.
Alors vous avez aussi travaillé au Monde, à France Inter, à Europe 1 également, et vous avez pu observer l'Élysée pendant un moment... De Matignon, où vous avez travaillé, de l'hôtel du Premier ministre.
Voilà, c'était une période particulièrement instructive de ce point de vue, puisque c'était une période de cohabitation. Et entre 93 et 95, pour être précis. Et donc, ça, c'est un poste d'observation très, très intéressant sur la façon dont fonctionne l'Élysée dans ces circonstances particulières, mais aussi d'une manière, je dirais, plus générale.
Alors, vous avez écrit avec Michel Guérald, autre consoeur.
Absolument, autre ancienne de RFI, absolument.
L'Élysée, vérités et légendes, un livre publié chez Perrin qui vient à un point nommé pour essayer d'en savoir plus sur ce palais un peu mystérieux, même s'il est ouvert aujourd'hui à beaucoup de Français, mais toujours mystérieux quand même.
Oui, c'est d'ailleurs un peu la logique de ce titre. Ce vérités et légendes est une nouvelle collection lancée par Perrin, qui est donc le grand éditeur d'histoire. Mais vérités et légendes, parce que l'Élysée, qui est évidemment au sommet de notre pyramide des pouvoirs en France, et tout particulièrement sous la Ve République, bien entendu, c'est par excellence un endroit sur lequel courent beaucoup d'idées reçues. Idées reçues ne veut pas forcément dire idées fausses, d'ailleurs. Il y a, parmi ces idées reçues, un certain nombre d'idées qui sont vraies, ou qui le sont partiellement. Il y a aussi des idées qui sont complètement fausses, et puis surtout, il y a une masse d'idées qui sont entre les deux. Et c'est un peu...
Les plus nombreuses.
Nombreuses, c'est ça. Et c'est un peu au décryptage de ces idées-là, et exemple précis à l'appui, qu'avec Michel Guérald, nous nous sommes attaqués.
Alors, entre nos différentes escales dans le monde, comme d'habitude, comme chaque semaine, Bernard, nous allons donc nous intéresser à ce palais de l'Élysée, au cœur de Paris, dans les beaux quartiers, dans le 8e arrondissement, quartier chic, alors que demain, les Français élisent leur 25e président et le 8e président de la 5e République.
Oui, oui, oui. Et on voit bien à quel point c'est devenu l'élection du président de la République en France un acte considérablement important, un peu la mère de toutes les batailles politiquement et électoralement. Ce que ça n'a pas toujours été, et puisque nous sommes chez un éditeur d'histoire, nous avons naturellement fait la part belle aussi à l'histoire, avec un grand H ou aux petites histoires, avec un petit H. Mais de nos jours, c'est évidemment un acte majeur, puisqu'il est élu depuis la réforme de 62, entré en vigueur pour la première fois en 65, au suffrage universel direct.
Alors rappelons que le palais de l'Élysée a été construit au XVIIIe siècle.
Voilà, et il a commencé comme jolie résidence un peu à la lisière de Paris à l'époque, dans des circonstances qui allaient faire dire un jour à De Gaulle, lorsqu'il est revenu au pouvoir et qu'il a été évidemment question pour lui de s'installer à l'Élysée, c'est un palais de la main gauche, c'est un palais de femmes. On a parfois dit que l'Élysée avait commencé dans la galanterie. C'est d'ailleurs le titre de notre premier chapitre au cours duquel nous montrons que c'est pas tout à fait ça quand même, il faut pas exagérer. Dès avant la République, c'était une résidence, disons, mondaine, mais qui n'a pas connu que des heures très heureuses.
Alors Bernard, nous allons commencer notre voyage dans le monde et partir pour le Japon qui a décidé de se joindre, on le sait, à l'armada américaine qui fait route vers les côtes de la Corée. Tokyo lundi, Frédéric Charles.
L'Izumo, officiellement, est un porte-hélicoptère. Pour la Chine, avec son pont d'envol de 248 mètres, le plus gros navire militaire japonais est un porte-avions déguisé. Rien ne l'empêche d'accueillir des avions à décollage vertical comme le chasseur F-35. L'intervention de l'Izumo aux côtés de l'armada américaine au large de la Corée du Nord marque pour la première fois de manière active l'extension du rôle militaire du Japon dans la région Asie-Pacifique, son intégration dans le système de défense collectif américain, avec en toile de fond la crise entre les États-Unis et la Corée du Nord, mais aussi la montée en puissance de la Chine. Deux destroyers japonais se livrent déjà à des exercices militaires avec le porte-avions américain Carl Vinson et des unités de la marine sud-coréenne. Le porte-hélicoptère japonais Izumo escortera les navires de ravitaillement de l'armada américaine entre la péninsule coréenne et Okinawa, qui concentrent les trois quarts des bases militaires américaines au Japon.
Suite d'une semaine d'actualité, toujours en compagnie de Bernard Brigoulex, la politique étrangère du président est ce que l'on appelle le domaine réservé, en tout cas depuis 1958, depuis De Gaulle.
C'est vrai, c'est vrai à ce correctif près que déjà les présidents de la 3e et dans une moindre mesure de la 4e République se sont intéressés à la politique étrangère et s'y sont impliqués un peu plus qu'on ne croit, sans aller naturellement jusqu'à jouer à cet égard le rôle central qui est aujourd'hui celui du chef de l'État, mais plusieurs présidents, en particulier au tournant des 19e et 20e siècles, à ce moment-là où il y a eu un certain nombre de gestes très forts, je pense à l'entente cordiale, à l'alliance franco-russe, à un certain nombre d'autres événements, les présidents jouaient quand même un rôle qui ne consistait pas seulement à organiser un grand dîner de clôture de réception diplomatique pour faire honneur à des hôtes prestigieux et dont la bienveillance était utile à la France, disons, et parfois réciproquement, bien entendu. Mais bien sûr, c'est devenu un des champs d'exercice vraiment centraux, essentiels aujourd'hui de la présidence de la République. Et ça, c'est un héritage très net et très direct du retour au pouvoir de Gaulle en 58. C'est un homme qui était passionné par la politique étrangère, qui quelque part avait, si l'on peut parler de politique étrangère s'agissant de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui s'était construit sur l'international, sur la politique étrangère. Et tous ses successeurs ont tenu à exercer ce rôle avec d'ailleurs, dans un certain consensus. On peut noter que même François Hollande, dont on peut dire que la politique a été passablement décriée tout au long de ces 5 années et critiquée vertement, y compris parfois par ses propres amis, dans le domaine de la politique étrangère, même lui aura réussi à maintenir un certain consensus.
Alors Bernard, De Gaulle n'aimait pas le palais de l'Élysée pour de multiples raisons, et notamment parce que sur le plan de l'histoire, c'est aussi le palais de l'abdication de Napoléon. Enfin, la dernière abdication, oui. La seconde, en 1815.
Voilà. Et pour aux yeux de De Gaulle, l'Élysée, outre ce que j'évoquais à l'instant, le côté palais de femmes, c'est un endroit qui est marqué par l'abdication de Napoléon Ier, et j'ajouterai le coup d'État de Napoléon III, puisque là aussi, Napoléon III qui n'est devenu Napoléon III qu'à l'occasion du coup d'État, je devrais dire le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte.
1851.
Voilà, et il disait que sous ce double rapport, c'était quand même pas un endroit marqué par de grandes heures nationales, disons. En même temps, il a évidemment fini par s'y habituer, d'abord parce que je crois, tout simplement, c'est un militaire, donc un militaire discute pas à l'endroit où il est cantonné. Le poste où il est affecté.
Il est en garnison.
Il est en garnison, voilà. Et je crois que le général s'est trouvé en garnison à l'Élysée et qu'au fond, il a fini par s'y plaire, ou en tout cas, par s'y installer et par s'y résigner, disons certainement.
Sans luxe.
C'est un des mérites qu'on doit reconnaître au général. Il y en a, à mes yeux, beaucoup d'autres, mais enfin, il y a notamment celui-là. C'est quand même un homme qui était resté, au fond, très, comment dire, pétri d'économie domestique des familles de la moyenne bourgeoisie de province, quelque part. Ça fait drôle de dire ça d'un personnage historique de cette stature, mais c'est un peu vrai. Donc, il avait fait poser un compteur électrique pour payer ses propres notes d'électricité dans le petit appartement privé, qui est pas extraordinaire d'ailleurs, qui lui était dévolu et qui a été dévolu à ses successeurs. Madame de Gaulle avait apporté de la boisserie, un peu de vaisselle de famille pour tous les jours, disait-elle. Évidemment, pour les grandes réceptions à l'Élysée, et Dieu sait qu'il y en a eu du temps du général, c'était tout à fait autre chose. Mais pour ce qui était de la vie privée, c'était simple. De Gaulle dînait volontiers d'un croque-monsieur et d'une salade. C'était...
Il semblerait que les temps aient changé, hein, depuis lui.
Voilà. Je crois que la dernière campagne, notamment, aura donné l'occasion de certaines comparaisons un peu accablantes pour la suite.
Alors avant de regagner l'Elysée, Bernard, nous allons continuer notre tour du monde, direction le Proche-Orient maintenant, et revenons d'abord sur les inflexions du Hamas à propos d'Israël, inflexion dans sa charte en tous les cas, Nicolas Falaise, lundi.
Le document réaffirme les grandes lignes de l'idéologie du Hamas. Le mouvement islamiste ne reconnaît pas Israël et continue de prôner la libération de toute la Palestine de la rivière à la mer, ce qui est de fait incompatible avec l'existence de l'État hébreu. Mais simultanément, le Hamas affirme envisager l'établissement d'un État palestinien dans les frontières de 1967, c'est-à-dire aux côtés d'Israël. Le mouvement ne dit pas comment il entend concilier ces deux objectifs. Autre point saillant du document, le Hamas ne se considère pas en conflit avec les Juifs, mais seulement avec Israël en tant que projet sioniste. Le texte, publié ce lundi, n'annule pas la charte du Hamas, mais elle l'actualise selon les dirigeants du mouvement qui espèrent ainsi le sortir de son isolement international. Le Hamas a rompu avec la Syrie ces dernières années, il a de très mauvaises relations avec l'Égypte du président Sissi, il figure sur les listes européennes et américaines des organisations terroristes. Les pays qui le considèrent aujourd'hui comme infréquentable exigent qu'il reconnaisse Israël, qu'il renonce à la violence et qu'il endosse les accords israélo-palestiniens. Des évolutions qui ne figurent pas dans le document publié ce lundi.
De son côté, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, était à Washington cette semaine. Il a été reçu par le président américain. Correspondance d'Anne-Marie Capomatio, mercredi.
We want to create peace. Between Israel and the Palestinians. We will get it done.
Nous voulons la paix entre Israéliens et Palestiniens et nous allons y parvenir. Donald Trump est sûr de lui et de ses qualités de médiateur. Le langage a évolué, il n'est plus question de déplacer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem et c'est un Donald Trump tout sourire qui a écouté Mahmoud Abbas demander la reconnaissance de deux États et surtout d'une Palestine avec Jérusalem-Est comme capitale, un État dans les frontières de 1967. Le leader palestinien contesté sur son terrain a tout intérêt à mettre à profit l'ouverture offerte par le Hamas et le changement d'administration américaine. Il manifeste ostensiblement son désir de croire à l'élan Trump.
Now, Mr. President, with you, we have hope.
Avec vous, Monsieur le Président, nous avons de l'espoir. Mahmoud Abbas ravit Donald Trump avec cette petite phrase de conclusion en anglais. Le leader palestinien n'a pas grand-chose à perdre. Après des années d'échecs de médiation républicaine ou démocrate, pourquoi ne pas essayer la méthode Trump ? D'autant qu'avec l'avocat personnel du président, Jason Greenblatt, et le gendre, Jared Kushner, le dossier sera géré directement en famille à la Maison-Blanche.
Les semaines se suivent et se ressemblent au Venezuela et avec des manifestations quotidiennes. Les forces de l'ordre ont dispersé mercredi avec des gaz lacrymogènes une manifestation à Caracas, manifestation de milliers de Vénézuéliens rejetant le projet de nouvelle constitution du président socialiste Nicolas Maduro qu'il voit comme une tentative de s'accrocher au pouvoir. Reportage ce jour-là de Julien Gonzalez.
Vêtus de t-shirts aux couleurs du Venezuela, les opposants ont une nouvelle fois été nombreux à se mobiliser ce mercredi depuis l'autoroute principale de la ville. Luis Obregón manifeste depuis un mois et pour cet avocat, cette Assemblée nationale constituante est un coup d'État.
Cette constituante, c'est une assemblée arbitraire avec des membres du parti présidentiel qui créeront leur propre constitution et l'imposeront à tous les Vénézuéliens. Le but, c'est de se maintenir au pouvoir, non seulement sur le plan politique, mais aussi économique. Concrètement, ils veulent s'emparer de toute la structure de l'État.
Parmi les manifestants, des députés comme Miguel Pizarro, légèrement blessé à la jambe lors de la manifestation de ce mercredi, il dénonce la répression des forces de l'ordre, mais appelle les Vénézuéliens à maintenir la pression dans la rue.
Cette marche avait à sa tête des députés. Nous voulions aller à l'Assemblée nationale où nous avons été élus. Et sans pouvoir dire un mot, nous avons de nouveau été agressés avec des gaz lacrymogènes, avec une violence qui vise à nous freiner. Mais aujourd'hui, plus que jamais, c'est important d'être dans la rue pour élever la voix. Après un mois de manifestation, nous sommes plus nombreux qu'au début. Nous avons vaincu la peur et nous avons obtenu de petits résultats qui montrent que nous avançons sur le chemin de la fin de ce gouvernement.
Le mouvement étudiant a annoncé de son côté qu'il manifestera ce jeudi dans tout le pays.
Et notez qu'un leader étudiant a été tué jeudi précisément lors d'une assemblée générale à l'université de Caracas. Avant un retour au palais de l'Élysée, Bernard Brigoulex, partons à Londres pour faire un point sur les tensions grandissantes entre l'Union européenne et le gouvernement britannique dirigé par Theresa May. Londres, mercredi, Muriel Delcroix.
Le ton s'est considérablement durci depuis une dizaine de jours entre Londres et Bruxelles et la querelle de chiffres autour de la facture du Brexit envenime la situation. À en croire le quotidien économique Financial Times, la Commission européenne estimait jusqu'à présent à environ 60 milliards d'euros la somme que Londres doit à l'Union dans le cadre des engagements déjà pris par l'Union européenne, mais pas encore financés. Or, la somme avoisinerait plutôt les 100 milliards d'euros en intégrant des coûts supplémentaires liés au secteur agricole et au fonctionnement administratif de l'Union en 2019 et 2020. La réponse de Londres a été tranchante. « Nous ne paierons pas 100 milliards », a immédiatement prévenu David Davis, le ministre britannique chargé du Brexit, avant de conclure que l'Union européenne essayait de jouer les gros bras. Depuis que la presse a révélé que le dîner entre Theresa May et Jean-Claude Juncker la semaine dernière s'était très mal passé et que la première ministre semblait se faire beaucoup d'illusions sur l'accord qu'elle pensait obtenir de la part des 27, les inquiétudes grandissent au Royaume-Uni. Et alors que le pays est lancé en pleine campagne avant des élections législatives anticipées le 8 juin, la capacité du gouvernement conservateur de Theresa May à défendre les intérêts britanniques face à Bruxelles est sérieusement remise en cause par ses adversaires politiques.
Suite d'une semaine d'actualité de Londres à Paris, il y a peu de distance, en tout cas aisément franchissable aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, un certain nombre de personnages de la famille royale ont hanté les couloirs de l'Élysée et les salons.
Puisque vous parlez de la famille royale, il faut préciser que rappeler que le prince Philippe a annoncé cette semaine qu'il prenait sa retraite. Il a 95 ans. C'est raisonnable.
Oui, oui, oui. Ça, c'est, vous n'êtes plus dans la retraite à 62 ans. Là, oui.
Bernard, on va faire une petite galerie de portraits. Est-ce que le palais de l'Élysée a toujours eu autant de prestige? Il en a incontestablement depuis 1958, depuis la 5e République. Est-ce que c'était le cas aussi sous la 4e et sous la 3e République?
Alors, il est convenu, et on l'entend souvent dire, de considérer que, avant, certes, il y avait l'Élysée, il y avait un président de la République, mais que tout ça ne comptait pas beaucoup. C'est à la fois vrai et faux, vérité et légende.
Ouais. C'est
vrai parce que, évidemment, le poids politique, la capacité de décision du président de la République était considérablement moindre, et d'ailleurs, quand par-ci, par-là, il y a eu des tentatives, je pense en particulier à Alexandre Millerand, avec l'affaire dite du cabinet François Marsal en 1924, où il essayait de nommer un premier ministre, enfin un président du conseil, comme on disait à l'époque, à sa dévotion, pour ne pas dire à sa botte, pour pouvoir gouverner lui-même, a dû très vite démissionner face à l'opposition des deux chambres. Mais n'oublions pas quand même que ces personnages ont été souvent moins médiocres que leur pouvoir. Quand on regarde le cursus d'un certain nombre de ces présidents de la Troisième République, notamment, on s'aperçoit que nombre d'entre eux sont au fond de pur produit de l'ascenseur social, de l'école républicaine, oui. Qui sont des gens qui étaient d'origine modeste.
Paul Doumer, par exemple.
Paul Doumer, oui, est certainement le, oui, plus emblématique. Paul Doumer, il a 9 ans quand il devient orphelin, sa mère fait des ménages à Paris, il lui-même est grouillot dans une imprimerie, et puis comme il a la passion d'apprendre, eh bien, il apprend, il finira par suivre des cours au Conservatoire des Arts et Métiers, passer une licence, une autre, et puis à faire de la politique, à se présenter aux élections. C'était aussi des gens, mais il y en a un certain nombre d'autres. C'est d'ailleurs terrible ce qui est arrivé à Paul Doumer, puisqu'il a perdu 4 fils à la guerre et que lui-même a été assassiné très peu après son élection. Mais il y a des cas moins dramatiques et moins emblématiques, mais qui forcent quand même le respect. Il y a beaucoup de nos présidents, y compris par exemple Albert Lebrun, le dernier président de la Troisième, qui est l'archétype du président balayé par les événements, mais qui était aussi d'origine très modeste et qui était quand même sorti major de Polytechnique.
Bernard Brigoulex, nous allons quitter le palais de l'Elysée un instant. On va faire un point sur l'actualité de ces dernières heures et on se retrouve dans 3 minutes. A tout de suite. Toutes les informations.
Une semaine d'actualité.
On se retrouve effectivement pour revivre 7 jours d'événements dans le monde, en Afrique notamment maintenant, avec les reportages de la rédaction et notre invité Bernard Brigoulex qui, avec Michel Guéral, vient d'écrire « L'Élysée, vérités et légendes », un livre publié chez Perrin. Bernard, vous êtes toujours avec nous ?
Absolument, plus que jamais.
Vous vous rappelez dans le livre une citation de Georges Clemenceau que je trouve formidable. Aujourd'hui, il y a deux organes inutiles en France, la prostate et la présidence de la République.
Oui.
C'est autant de Clémenceau, je précise.
Bien entendu. Clémenceau, qui avait d'ailleurs, citation pour citation, aussi expliqué dans une élection précédente comme parlementaire, puisqu'à l'époque, le président de la République, sous la troisième et la quatrième, était élu par les deux chambres du Parlement. Il avait dit aussi « je vote pour le plus bête ». Deux citations qu'on peut rapprocher parce qu'elles relèvent un peu de la même vision, c'est-à-dire à la fois l'idée que la présidence de la République sous la troisième ne sert vraiment pas à grand-chose, et ce qui est un peu injuste d'ailleurs à mes yeux, et qu'au fond, dans ces conditions, autant voter, si ce n'est pour le plus bête au sens presque médical du terme, du moins pour le plus inoffensif, c'est-à-dire celui qui sera le moins tenté de faire quelque chose de ce métier unique et bizarre entre tous, qui est à l'époque, et qui est d'ailleurs resté, mais pour d'autres raisons, la présidence de la République. En fait, Clémenceau lui-même s'est trouvé un peu piégé par cette remarque, parce que lui-même a été candidat après la guerre de 14, dont il était quand même, sur le plan civil en tout cas, le grand homme concurremment au président Poincaré, mais probablement de manière plus visible, plus éclatante que Poincaré. Il a essayé de succéder justement à Poincaré. Et là, il s'est trouvé à son tour en butte à ceux qui voulaient non pas voter pour le plus bête, parce qu'on pouvait reprocher mille choses à Clémenceau, mais certainement pas sa sottise, mais au contraire voter les gens qui voulaient surtout pas voter pour quelqu'un qui avait l'air d'avoir l'appétit du pouvoir. À quoi s'ajoute le fait que de toute façon Aristide Briand, qui allait manifester ensuite ses ambitions pacifiques, donc il pouvait ne pas très bien s'entendre, pour le moins, avec Clémenceau, était de toute façon très hostile à cette candidature.
Et c'était très injuste pour Clémenceau, c'est Paul Deschanel qui a été élu à sa place.
Voilà, alors là aussi on pourrait dire, vous savez, les élections de président de la République, c'est un peu comme les élections à l'Académie française. Hein. On peut citer avec regret la liste des... On peut faire la liste des...
De ceux qui n'y sont pas.
Des grands écrivains qui n'en ont pas été, des grands hommes politiques qui n'en ont pas été, et parfois au profit de personnages comment dire, plus médiocres. Et alors Paul Deschanel va en plus avoir une élection mirobolante. C'est la plus belle élection de toute l'histoire de la Troisième République en termes de score, hein, de score parlementaire. Or, chacun sait que Paul Deschanel a psychologiquement, je dirais même psychiatriquement mal tourné. Sa présidence a été très raccourcie parce que très vite, il a manifesté, ce qu'on peut appeler, je crois, sans exagération, psychiatrique, il faut bien le dire. C'est un personnage qui s'est mis à avoir des comportements paradoxaux, aberrants. On cite le cas de promenade dans le jardin de l'Élysée avec des hôtes de marque qui se mettaient brusquement à grimper aux arbres. Je pense qu'il n'allait pas tout en haut d'un arbre. Enfin, il sautait sur des branches. Il y a eu aussi l'affaire du train.
Oui, on l'a retrouvé sur des voies.
On l'a retrouvé sur des voies. Et un cheminot l'a reconduit au poste de garde barrière le plus proche. Et la femme du cheminot a expliqué ensuite aux journalistes accourus, j'étais pas sûr qu'il était vraiment le président de la République comme il le disait, mais j'ai pensé tout de suite que c'était un vrai monsieur parce qu'il avait les pieds propres.
Alors nous ne pouvons pas parler des candidats à l'élection présidentielle avant le second tour demain dimanche, pas d'actualité donc en ce domaine, mais nous allons partir tout de suite pour l'Afrique pour parler de la liberté de la presse. Bernard Brigoulex, je m'adresse aux journalistes. Mercredi, c'était la journée mondiale de la liberté de la presse, une journée créée par l'ONU en 1993. 71 pays au moins ne la respectent pas, 3 en particulier, la Corée du Nord, le Turkménistan et l'Érythrée. On notera aussi la situation critique en Syrie, en Irak, au Yémen, mais aussi en Turquie. Alors qu'en est-il de l'Afrique ? La situation est pour le moins contrastée. Parlons d'abord des journalistes libyens. Certains étaient réunis en Tunisie ces derniers jours et Justine Fontaine les a rencontrés.
Souleymane Al-Barouni était reporter en Libye pour la télévision. Il y a 2 ans et demi, il a dû quitter son pays Pour lui, un journaliste ne peut plus être objectif en Libye aujourd'hui sans risquer sa vie.
J'étais menacé, j'ai été kidnappé, je suis resté dans la prison d'une milice pendant 6 jours. Pourquoi ? Parce que j'étais présentateur à la télévision et que je couvrais l'actualité et le parti qui m'a enlevé n'était pas d'accord avec ce que je disais en direct à la télévision. Donc voilà, j'ai été kidnappé.
Il travaille maintenant depuis l'Égypte pour des médias libyens et étrangers. Malgré les risques, certains continuent d'exercer leur métier depuis la Libye, comme Rim Elbreki. Elle est rédactrice en chef d'Arbar Libya, une agence de presse indépendante. Pour garantir la sécurité de ces journalistes, l'agence leur offre désormais l'anonymat s'ils le souhaitent.
Les correspondants qui travaillent avec nous et coopèrent avec notre agence fournissent leurs informations non pas sous leur propre nom, mais au nom de l'agence de presse, pour des raisons de sécurité.
Dans le classement 2017 de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières, la Libye est classée 163e sur 180 pays.
Alors heureusement, il y a aussi de bonnes nouvelles en matière de liberté de la presse en Afrique, au Burkina Faso, par exemple. Écoutez cette correspondance de Ouagadougou signée Yaya Boudani.
Avec un paysage médiatique et pluriel et la dépénalisation de la diffamation, journalistes et patrons de presse saluent les progrès au niveau de la liberté de presse et d'expression au Burkina Faso.
Vous décidez de vous exprimer et vous vous exprimez. En tout cas, les canaux existent aujourd'hui pour ça. Même la presse publique aujourd'hui est plus indépendante.
Avant même l'insurrection, je pense quand même que la presse burkinabé était quand même plurielle et libre. Et nous constatons la même dynamique justement depuis l'insurrection, sauf que ces derniers temps, dans un contexte justement de terrorisme, on voit justement que bon, on est en train de vouloir justement nous imposer une ligne éditoriale face au traitement justement des questions liées au terrorisme.
Ce qui inquiète aujourd'hui les patrons de presse au Burkina Faso, ce sont les obstacles économiques. Plusieurs journaux ont déjà mis la clé sous la porte. Bourayma Ouédraogo, président du comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo.
Beaucoup d'entreprises de presse sont en train de se faire. Mais il y a au moins 3 ou 4 qui ont déjà mis la clé sur le paillasson. Mais il y a d'autres aussi qui suspendent parfois, qui reprennent, mais qui traduisent toute la précarité par rapport au fonctionnement des entreprises de presse. Donc aujourd'hui, sérieusement, on est confronté à des problèmes économiques qui limitent sérieusement la liberté de presse au Burkina Faso.
Si l'État fait l'effort de payer ses dettes vis-à-vis des entreprises de presse, l'on pourra sauver certains médias de cette précarité, selon Bourayma Ouédraogo.
Et nous avons aussi une pensée pour notre confrère Ahmed Abba, condamné à 10 ans de prison au Cameroun, il faut le rappeler, pour avoir travaillé, enquêté sur Boko Haram. Parlons maintenant de l'opération Barkhane au Mali et de l'offensive que les forces françaises mènent depuis plusieurs semaines. Mission la plus récente, détruire un campement de djihadistes, Olivier Four.
Pour découvrir ce campement terroriste, Barkhane a mis les moyens des drones de reconnaissance, des écoutes, une traque de plusieurs semaines et au final, l'un des bilans les plus importants depuis près de 3 ans. Des terroristes délogés dans la forêt de Foulsaré, une vingtaine d'éléments mis hors d'état de nuire selon Barkhane et beaucoup de matériel saisi, bilan à Paris avec le porte-parole de l'état-major des armées, le colonel Patrick Steger.
Au bilan de ces actions, une vingtaine de motos, un autre pick-up, de l'armement, donc aussi bien des armes légères d'infanterie, des lance-roquettes, des pistolets automatiques, des munitions, des chargeurs, du matériel informatique, ainsi que des composants rentrant dans la fabrication d'engins explosifs improvisés. Il est à noter, comme je vous le disais, qu'un certain nombre de terroristes s'est enfui et a sans doute emporté une partie de ses blessés ou de ses tués. Les renseignements sont en cours d'exploitation pour savoir exactement de quel groupe il s'agissait. C'est une zone dans laquelle est présent Ansarul Islam, c'est une zone dans laquelle tâche de s'implanter le RVIM. On n'exclut pas une possibilité d'alliance de circonstances entre les deux.
RVIM, désignation du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, né de l'alliance de plusieurs groupes sahéliens. EI pour le Grand Sahara, EIGS a également par le passé revendiqué des actions au Burkina Faso et tenterait par ailleurs d'y opérer. Le renseignement français estime à 400 le nombre total de djihadistes encore actifs dans l'ensemble de la zone sahélo-saharienne.
Suite à une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Bernard Brigoulex qui a écrit avec Michel Garal « L'Élysée, vérité et légende ». Un livre publié aux éditions Perrin. Il faut rappeler que le premier locataire, comme on dit, de l'Élysée fut Louis-Napoléon Bonaparte en 1848 et qu'il y a eu ensuite une succession de présidents jusqu'à François Hollande qui est le 24e président au total et le 8e de la 5e République. Avant de parler de la présidence actuelle, il faut dire un mot de Félix Faure aussi qui est dans cette galerie de portraits qui est connu pour quelques exploits assez particulier.
Oui, disons extra-politique, oui. Encore que ce soit aussi à cause de cette petite anecdote, hein, Félix Faure est le seul président qui soit mort, dois-je dire, dans l'exercice de ses fonctions, en tout cas dans l'exercice de fonctions encore plus naturelles que celle de la présidence de la République.
En bonne compagnie. D'une certaine
façon, mais en très bonne compagnie, voilà, d'une de ses belles amies, c'est vrai. C'était quand même, du coup, ça a fait un peu oublier que c'était quand même un personnage politique aussi.
À la toute fin du 19e siècle.
Voilà, à la toute fin du 19e siècle. Et c'est un homme qui lui aussi s'est fait lui-même, c'est parti de ses présidents un peu self-made men, comme on ne disait pas encore, et qui était d'ailleurs assez imbu de lui-même. D'abord, il avait un physique avantageux, ça, quelque part, s'il en est mort.
Mais logique.
Mais,
enfin, oui.
Mais c'était quelqu'un qui se prenait assez au sérieux. Il avait exigé même de sa femme, à qui décidément aucune disgrâce n'aurait été épargnée, qu'elle marche quelque pas en arrière de lui pour bien montrer la majesté de sa fonction. Il avait imposé le port de la jaquette à l'Élysée dès 10h du matin. Enfin, je veux dire, c'était un personnage aussi. Hein. Bon, le beau Félix, c'était vraiment, mais c'était aussi un homme qui était passionné, fasciné par les femmes, et un soir, quand il avait une réception très galante et très intime, il a eu un problème cardiaque dont il est mort, non pas tout à fait sur le coup, mais assez peu après. On a fait partir évidemment d'urgence sa jolie visiteuse. Et quand le
sa connaissance.
Quand on a appelé un prêtre auprès de lui, le prêtre en arrivant a dit, paraît-il, c'est tellement beau que je me suis toujours demandé si c'est pas un peu apocryphe, mais le président a-t-il encore sa connaissance? Et on l'aurait répondu, non, elle est partie par la porte de derrière. Voilà.
Alors Bernard Brigulac, s'en est passé de drôles de choses aussi à l'Élysée depuis sa création. Vous le racontez très bien dans le livre. Il nous faut parler de l'Élysée actuelle, en tout cas de l'époque contemporaine, dans ce palais qu'on surnomme le château, et je trouve que c'est très symptomatique.
Oui, tout à fait.
Parce que c'est monarque républicain, la cour en quelque sorte,
oui.
Et son château.
Voilà, il y a effectivement une dimension qui est restée très monarchique du vocabulaire, le monarque élu, le château. Au début, c'était plutôt par dérision. C'est Vincent Auriol, sous la 4e République, donc à une époque où c'était moins monarchique, disons, la présidence française. Mais
Donc, 4e République, il faut rappeler, 45 jusqu'à 1958. 58,
voilà. Et Vincent Auriol est le premier président, élu en 47. Qui s'installe en 47, oui. Qui est élu fin 46. Et qui d'ailleurs va vivre avec sa famille au château. Et justement, c'est un peu pour ça qu'il l'appelle le château, mais dans son esprit, c'est plutôt une blague, quoi, c'est le château. Même si Vincent Auriol était un homme qui avait vraiment l'intention de que sa présidence ne soit pas rien, et notamment qu'elle ne soit pas tout à fait ce qu'elle avait pu être sous la troisième, et particulièrement sous la présidence Lebrun. Et d'ailleurs, Auriol disait, si on avait voulu juste un personnage en frac qui vient présider des dîners, il n'y avait qu'à élire un danseur mondain. Et c'est un homme qui a choisi d'avoir un vrai cabinet. C'était avant le cabinet de l'Élysée, c'était une demi-douzaine de collaborateurs, quelqu'un du protocole du Quai d'Orsay, et puis quelques militaires. Voilà. D'ailleurs, à l'origine, c'était même que des militaires, puis c'était devenu des civils avec des militaires. Et là, c'est quand même un peu la naissance de la fonction, non pas telle qu'elle est aujourd'hui, il s'en faut beaucoup, beaucoup, mais quand même la version moderne des choses.
Alors, 4e République de président, Auriol Coty. Ensuite, 5e République 1958, De Gaulle. Et là, vous racontez très bien, l'Élysée change même physiquement.
Oui.
Tout est réaménagé.
Oui, parce que d'abord, l'Élysée, beaucoup de gens doivent s'imaginer que c'est un grand palais.
Non, c'est pas Versailles. Hein.
Non, pas du tout. Pas du tout. Le problème de l'Élysée, dès 58, c'est le manque de place. Il faut arriver à loger des tas de collaborateurs. Et encore, en 58, il y en a beaucoup moins qu'aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup moins. Mais quand même, donc, petit à petit, d'ailleurs, l'Élysée va s'agrandir. On va annexer des bâtiments annexes, des bâtiments voisins qui vont devenir annexes, justement. Et même des services qui sont pas du tout voisins et qui seront aussi des services de l'Élysée. Il y aura l'hôtel de Marigny, il y aura un certain nombre de choses de l'autre côté de la rue l'Élysée, etc. Parce que c'est évidemment en fonction de l'importance nouvelle prise par l'équipe présidentielle. Donc il faut changer tout ça. Et d'ailleurs, De Gaulle avait songé à éventuellement s'installer ailleurs. Oui. Il avait pensé au Louvre, mais c'était compliqué parce que c'est d'abord un musée et que pour des raisons de sécurité notamment, ça devenait très compliqué. Même si à l'époque il y avait le Louvre rue de Rivoli qui a été le ministère ministère des Finances, mais bon, c'était compliqué. Il avait rêvé du château de Vincennes, où il y avait de grands souvenirs monarchiques, c'est vrai, mais aussi de la résistance. Certains collaborateurs lui avaient proposé carrément le château de Versailles, et là, non sans humour, il avait répondu, je crois quand même que ce serait un peu excessif.
Même si par la suite, nos amis du Canard Enchaîné ont décrit
absolument,
de Gaulle.
Absolument, Moisan.
Moisan, Ribaud.
Ribaud, voilà, André Ribaud, avec les dessins de Moisan, la cour que le présentait inlassablement Louis XIV. C'est un peu injuste à mes yeux, parce qu'en plus, je trouve que de Gaulle est très loin d'avoir été le plus monarchique de nos présidents, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Mais à l'origine, il faut penser d'où on venait. Donc, c'est vrai qu'en 58, 60, 65, élu au suffrage universel direct, en plus, qui est une petite révolution, ouais, par rapport à ce que c'était avant, c'est vrai que on est en présence d'un pouvoir qui peut sembler très fort, qui peut pas sembler, qui l'est d'ailleurs. Simplement, il l'est resté, y compris sous des présidences de gens qui étaient à l'origine très hostiles et au régime et à cette élection au suffrage direct.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
C'était donc notre adresse électronique, vous la connaissez par cœur, il faut que vous l'utilisiez, continuez à l'utiliser. Merci en tout cas pour vos messages. Vous avez été très nombreux à nous envoyer des messages, des petits mots à la page Une Semaine d'Actu de Facebook, notamment pour nous parler de l'élection présidentielle. Alors je ne peux pas y faire référence aujourd'hui. Je salue en tout cas Léonard à Douala, Julien Damien à Yaoundé, Keïta à Kaï au Sénégal, ainsi que Fanta à Hambourg. Un salut également à Hassan et Claire à Paris. Partons pour le Burkina Faso pour la reprise jeudi du procès du dernier gouvernement de l'ex-président Blaise Compaoré devant la Haute Cour de Justice, Karine Franck.
C'est une image inédite. Devant leur juge, 25 anciens ministres, tous poursuivis pour avoir décidé lors du Conseil extraordinaire des ministres du 29 octobre 2014 de faire appel à l'armée pour réprimer les manifestants hostiles à la modification de la Constitution. Pour l'accusation, en signant une réquisition complémentaire spéciale, les ministres ont incité les militaires à tirer à balles réelles, occasionnant 7 décès, 88 blessés. Selon une source judiciaire, le procès ne devrait pas durer plus de 2 semaines. Une première journée consacrée en partie aux exceptions, environ 3 jours pour les interrogatoires des prévenus, une journée pour l'audition des témoins, parmi eux le général Gilbert Diendéré, ancien chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré, qui était présent à l'ouverture du procès, puis ce sera le réquisitoire, les plaidoiries, le dernier mot des accusés et le délibéré. Le parti de Blaise Compaoré dénonce d'ores et déjà un procès politique. Aucun acte illégal n'a été commis, renchérissent les avocats de la défense. À l'inverse, pour ceux qui avaient pris part à l'insurrection populaire, c'est le procès de la responsabilité politique et de la reddition des comptes, le procès du refus de l'impunité.
Bernard Brigoulex, partons pour le Mali maintenant, après l'attaque d'un camp de la MINUSMA à Tombouctou, correspondance de Serge Daniel.
C'est essentiellement le bataillon libérien de la mission de l'ONU à Tombouctou qui a été visé. Un expert relève que de plus en plus, les auteurs des attaques contre les camps de la mission de l'ONU au Mali ajustent leurs tirs de manière plus professionnelle. Au moins 7 obus ont atterri dans le camp ou non loin de là. 9 casques bleus ont été blessés, parmi eux, 4 sont dans une situation critique. Ils ont été évacués d'urgence vers une clinique privée de la capitale malienne. L'attaque a également causé la mort d'une personne. Tout juste après les faits, la mission de l'ONU au Mali a renforcé la protection de son camp et des habitants de Tombouctou ont vu dans le ciel des avions de l'ONU, notamment des appareils de reconnaissance pour identifier la provenance de ces tirs. Des tirs qui viendraient du nord-est du camp attaqué et ce serait l'œuvre des djihadistes. Les observateurs s'interrogent d'ailleurs. Au centre du Mali, une attaque contre l'armée régulière, au moins 9 morts, et une autre le lendemain contre les casques bleus au nord-ouest du Mali. Les 2 opérations n'ont-elles pas été coordonnées et exécutées par les mêmes groupes armés ou par des groupes alliés?
Il y avait des élections législatives en Algérie, jeudi, élection de 462 députés exactement, et un scrutin vraiment sans surprise. À Alger ce jour-là, Laïla Berato.
À sa une, le journal Liberté prévenait, c'était le jour de l'épreuve de crédibilité. Plus de 45 000 policiers avaient été déployés autour des bureaux de vote. Pourtant, la matinée a commencé timidement. En Kabylie, le taux de participation n'avait officiellement pas dépassé les 10% à 14h. Autour de Bouira, des bureaux de vote ont été saccagés et des affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu dans la matinée. L'événement de la mi-journée était dans la capitale. Le président Bouteflika a voté, assis sur son fauteuil roulant et accompagné de ses deux frères et de ses deux neveux. Il n'était pas apparu en public depuis le mois de décembre. Dans l'après-midi, le Parti des travailleurs, dirigé par Louisa Hanoun, dénonce des fraudes. Plusieurs responsables de partis islamistes affirment, eux, que les walis, l'équivalent des préfets, fraudent en faveur du parti historique, le FLN. Les bureaux de vote ont du mal à se remplir. À 17h, le taux de participation atteint 33%. À 19h, finalement, le ministère de l'Intérieur finit par annoncer que l'ouverture des bureaux de vote est allongée jusqu'à 20h dans presque toutes les régions du pays.
Et finalement, les deux partis au pouvoir, le FLN et le RND, conservent la majorité absolue, sans surprise. Donc, suite d'une semaine d'actualité, retour au palais de l'Élysée à Paris, siège de la présidence de la République, qui aura demain soir et pour 5 ans un nouveau locataire, comme on dit. On va continuer à évoquer cette histoire à partir de votre livre, Bernard Brigoulex. Et il faut d'abord souligner l'importance, vous avez commencé à en parler, des cabinets des présidents de la République, qui sont en gros des petits gouvernements.
Voilà, c'est d'ailleurs parfois toute la difficulté de certains ministres, c'est d'avoir, j'ose pas dire au-dessus d'eux, parce que hiérarchiquement il n'en est rien, mais d'avoir pour interlocuteur élyséen, en tout cas, des conseillers très forts, très influents. Je ne citerai aucun exemple qui risque de nous renvoyer au scrutin de demain, mais on peut penser notamment à tel ou tel nom. Parmi ses collaborateurs, certains sont en effet particulièrement influents, et un tout particulièrement, qui est le secrétaire général de l'Élysée.
Qui est un personnage dans l'ombre, mais très puissant.
Voilà, c'est un personnage...
Une sorte de vice-premier ministre, presque.
Oui, c'est vrai. Certains ont même parfois dit, je me souviens qu'on avait dit ça de Claude Guéant à propos de Nicolas Sarkozy, le vice-président. Bon, c'était d'ailleurs excessif. Mmh. Mais enfin, quand l'entente est étroite entre le secrétaire général et le président, et c'est la règle, sinon à quoi bon, d'ailleurs. Eh bien, c'est vrai que sa capacité d'influence est considérable. Souvenons-nous d'ailleurs qu'un certain nombre de secrétaires généraux ont eu ensuite des carrières politiques très fortes, ministérielles. Ce fut notamment le cas de Claude Guéant qu'on citait à l'instant, mais premier ministériel, en quelque sorte.
Vous en connaissez un, au moins.
Voilà.
Édouard Balladur.
Édouard Balladur. Mais
il fut le secrétaire général de Georges Pompidou.
De Georges Pompidou. Dominique de Villepin aussi. Michel Jobert l'avait été aussi. C'est une filiation assez normale.
Et finalement, c'est pour ça que la première nomination d'un président est en général celle du secrétaire général, et tout le monde la scrute, la regarde.
Oui, alors d'autant plus que c'est le secrétaire général qui, sur le perron de l'Élysée, va donner la liste du gouvernement. Mais on aurait tort de croire que cette fonction, pour emblématique qu'elle soit, constitue l'essentiel de son travail. D'ailleurs, compte tenu de la stabilité ministérielle de la Ve République, ça ne l'épuiserait pas.
Alors, il y a aussi un sujet qui fâche, enfin, qui est polémique, qui l'est moins aujourd'hui, mais qui l'a longtemps été, c'est le coût de l'Élysée.
Oui, ça a longtemps été polémique, d'abord parce que c'était un peu sans contrôle. S'il n'y avait pas eu les travaux d'un député socialiste qui s'est beaucoup engagé dans le contrôle des dépenses publiques.
René Dosière.
Quel que soit d'ailleurs le gouvernement, enfin la majorité gouvernementale et présidentielle. C'est un hommage à lui rendre. Il y a beaucoup de choses qu'on ignorerait encore. Sous l'influence notamment de ce parlementaire, et puis quand même d'une prise de conscience, d'un effort de transparence qui ne concerne pas que le budget de l'Élysée, bien entendu, ni même que les budgets ministériels, en tout cas de fonctionnement, il y a eu un certain nombre de progrès de fait, d'ailleurs déjà sous la présidence de Nicolas Sarkozy, et que François Hollande, malgré la bavure très commentée ironiquement de son coiffeur personnel quotidien fort bien rémunéré, que François Hollande donc a poursuivi cet effort de transparence. Quel était le problème au fond? C'est qu'avant, les personnels de l'Élysée étaient rémunérés par leur administration d'origine, qui reste d'ailleurs très souvent la Défense nationale. Mais les conseillers techniques, les chargés de mission, etc. Mais même les petites mains, les secrétaires, les chauffeurs, les cuisiniers, les huissiers, tout ce petit monde venait en général d'une autre administration qui continuait à les rémunérer, ce qui permettait d'afficher un budget très modeste pour l'Élysée, en tout cas par rapport à l'importance centrale de l'Élysée dans la vie publique française. Ce qui a été fait, c'est un effort de clarification de ce point de vue, c'est-à-dire que maintenant, le personnel de l'Élysée est rémunéré par sur le budget de l'Élysée. Alors l'effet optique, ça a été que le budget de l'Élysée a bondi quand on a fait cette réforme, mais en réalité c'est ça, voilà, de l'ordre de 100 millions d'euros, mais c'est un jeu à somme nulle pour le budget de l'État naturellement. Donc là-dessus, c'est un effort de clarification qu'il faut saluer, je crois.
Et Chirac qui menait grand train à l'Élysée aussi disait là où De Gaulle dépensait 10 francs, Giscard en dépensait 100 et Mitterrand 1000.
Oui, il faut bien dire que alors je ne garantis pas l'ordre de grandeur. Je pense pas que François Mitterrand et dépenser 100 fois plus pour l'Élysée que Charles de Gaulle. Mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes où l'Élysée menait grand train sans contrôle. Et de ce point de vue, je pense que l'ère mitterrandienne restera exceptionnelle.
Alors, il nous reste peu de temps, Bernard. Il faut aussi parler en quelques secondes de la vie après l'Élysée, que vous développez d'ailleurs dans ce livre.
Oui, y a-t-il une vie après l'Élysée ?
L'écriture.
Il y a l'écriture, effectivement.
Enfin, jusqu'ici.
Jusqu'ici, oui. Mais on dit que François Hollande compte bien lui aussi s'exprimer dans un livre qui ne devrait pas manquer d'intérêt, parce que l'homme ne manque pas de talent d'expression, quels qu'aient été ses déboires politiques, et d'autres l'ont fait. D'ailleurs,
d'autres ont préféré les affaires, comme Nicolas Sarkozy.
Oui, encore que, même dans son cas, on sent bien à quel point le virus de la politique le tenaille, et les tenaille presque tous. La tentation de revenir en politique est quand même très très difficile à réaliser. Et puis, il y a aussi quand même souvent une période de passage à vide, parce que passer de ce rôle central, et quoi qu'on en pense, épuisant, à cette brusque vacuité, à ce téléphone qui ne sonne plus, c'est pas simple à vivre non plus.
Merci Bernard Brigoulex, votre livre que je recommande à lire d'ici demain avant de voter par exemple, écrit avec Michel Guéral que l'on salue aussi, s'intitule L'Élysée, vérités et légendes, il est publié chez Perrin. Merci.
Merci à vous.
Une semaine d'actualité réalisée par Ludivine Amado. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée. Là, nous prendrons le large, Bernard, puisque nous parlerons de la vie et l'œuvre de Jack London, du Grand Nord au Pacifique. Demain dimanche, Idée, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, nouveau journal sur RFI.